Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Djoliba Focus sur Djoliba TV News. Ce soir, nous allons parler encore de l'actualité nationale. Vous le savez, ces temps-ci, l'actualité elle est chaude, l'actualité nationale très mouvementée par des attaques à répétition. Nous allons parler de ces attaques complexes, et des attaques multiples et complexes sur le sol malien, le territoire malien, mais aussi à interroger un peu la marche de la transition, le chronogramme électoral, le respect du chronogramme électoral, et puis aussi le référendum constitutionnel, et puis que faire justement pour une transition réussie. Pour en parler, nous recevons pour vous un jeune brillant du CNT, très influent aujourd'hui, qui soutient Mordicus, cette transition, et puis vous l'aurez compris, notre invité, docteur Amadou Albert Mega. Docteur, bonsoir.
Oui, bonsoir, M. Alter.
Merci de répondre à notre invitation.
C'est toujours un plaisir de répondre à l'invitation de Djoliba TV News.
Le plaisir est toujours partagé. Vous êtes chez vous ici à Djoliba TV News. Venez quand vous le souhaitez. Merci. Déjà, vos voeux pour les Maliens qui viennent de fêter la fête de l'Eid al-Fitr.
Je commence d'abord par remercier l'équipe de Djoliba TV News, la direction, l'équipe technique, le staff, vraiment toute l'équipe. J'ai aussi reçu mon panier de Ramadan et franchement, que la direction soit vraiment remerciée. Et merci. Par la même occasion, je souhaite une très bonne fête à l'ensemble du peuple malien. Et je demande pardon au peuple malien, c'est vrai qu'on est jeune. Il y a des fois cette fougue, cette énergie qui est là. Des fois, on parle peut-être avec des mesures, certainement. Mais on demande l'indulgence des uns et des autres et nous leur demandons pardon pour tout désagrément causé.
D'accord.
Leur dire que nous avons foi en notre pays, nous avons foi aux autorités actuelles, c'est ce qui nous pousse à réellement agir. C'est par patriotisme que nous agissons, mais pas par méchanceté. D'accord. Bonne fête à tout le monde.
Merci beaucoup, docteur Amadou Albert Mega. Je pense que les Maliens ont compris le message, la portée du message. Donc, engagement, engagement avec patriotisme, même si parfois, pour vous, il peut y avoir quelques dérapages, peut-être liés à la jeunesse aussi. Vous êtes très jeune, comme vous le dites. Donc, nous allons, pour parler de ces attaques complexes, nous allons justement regarder cet élément de la rédaction, élément signé Makan Fofana, et juste après, on vient pour le décryptage avec notre invité, docteur Amadou Mega, membre du CNT, Conseil national de transition. Nous suivons cet élément de Makan Fofana.
Pendant que les regards étaient braqués sur la fête de Ramadan, ce sont des bourrasques terroristes qui vont emporter la saveur de la fête. Mardi 18 avril, une délégation conduite par les chefs de cabinet du président de la transition lors d'une mission des œuvres sociales est tombée dans une embuscade près de Nara. 4 personnes y laisseront leur vie, dont les chefs de cabinet du président, l'adjudant Omar Traoré, affectueusement appelé Douglas. Au lendemain de la fête d'Aïd el-Fitr, il n'y aura pas de repos. Sévaré se réveille avec de fortes détonations aux environs de 5 heures. Le pire est évité. L'armée a déjoué une attaque complexe contre l'aéroport avec des véhicules kamikazes. Une trentaine de terroristes ont été neutralisés par les forces armées et plusieurs autres arrêtés. Mais l'explosion des véhicules a entraîné l'effondrement de certaines maisons, causant 10 morts et 61 blessés civils. Le même jour, un convoi de ravitaillement de l'armée a été la cible d'une attaque près de Mourdia. La riposte a été fatale pour l'ennemi. Un sanctuaire terroriste a été réduit en cendres. La journée aura été longue. Les FAMA ont neutralisé une soixantaine de terroristes alors qu'ils préparaient une attaque dans la zone de Boni. L'autre incident qui a assombri la journée du 22 avril, c'est le crash d'un hélicoptère de l'armée à Bamako au quartier de Misabougou. Aucun des 3 membres de l'équipage n'aura survécu à l'explosion de l'engin qui a fait 6 blessés civils. Toujours pas de répit, même un dimanche. Les FAMA ont mené une reconnaissance offensive dans plusieurs secteurs de la région de Menaka. Exactement dimanche 23 avril, elles ont mis aux arrêts 12 terroristes et ont saisi plusieurs matériels sur eux. Une véritable semaine d'odyssée qui ne ferait que renforcer la détermination de l'armée dans la lutte contre le terrorisme, selon le chef d'état-major général des armées. Ces événements interpellent à l'union sacrée et à la collaboration entre population et l'armée, comme les habitants de Sévaré ont fait montre sous l'effet des leaders du terrorisme.
Il y a notre jeune reporter Makan Fofana qui appelle à l'union sacrée, dit que ces événements interpellent tous les Maliens et appelle à l'union sacrée autour du Mali et autour des FAMA, les forces armées maliennes.
Oui, bien sûr. Les FAMA, d'abord, c'est un symbole pour la République. C'est vraiment le sang des Maliens, en quelque sorte, parce que des gens qui versent leur sang pour que nous puissions vaguer librement nos occupations quelque part. Chaque Malien a un sang de FAMA dans ses veines. Et nous sommes réellement reconnaissants des efforts déployés par nos forces de défense et de sécurité sur le terrain. Cependant, la vidéo que nous venons de voir tout de suite, vous voyez ce véhicule-là qui se dirigeait tout droit vers l'entrée du camp et au checkpoint. Oui. Vous avez remarqué qu'il y a...
On pouvait faire revenir cette image-là.
Exactement.
On voyait une...
Oui. Et après, vous allez voir qu'il y a un individu qui va sortir du véhicule et qui va, bien entendu, escalader le mur du camp. Or, le camp est encerclé et entouré par des fils barbelés. Et ça veut dire que quelque part... Soit il a été aidé, ou en tout cas il y a eu une main extérieure qui a pu l'aider à rentrer dans le camp. Mm-hmm. Et il se parlait vraiment par talki.
Okay.
Et quand lui il est rentré, il a parlé à l'autre qui était le chauffeur qui était dans la voiture bourrée d'explosifs. Mm-hmm. Et ce dernier a fait marche arrière. Mm-hmm. Et c'était vraiment pour se préparer et rentrer maintenant par force. Et c'est là où les drones de combat que nous avons ont ouvert le feu, ont engagé le combat. Okay. Et c'est là où la cible a été détruite. Et malheureusement, la détonation a été tellement forte qu'il y a eu des maisons, bien entendu, qui se sont effondrées, causant la perte de certains de nos compatriotes. C'est le lieu pour nous de prier que leur âme repose en paix. Mm-hmm. Mais il y a le Sénat quelques années, si on avait attaqué un camp, c'est sûr que personne n'en sortirait vivant. Il y a 3 ans, 4 années de cela, des terroristes attaquaient nos camps, prenaient tranquillement du thé, mangeaient du sandwich là-bas, faisaient des vidéos, filmaient nos militaires en détresse, montraient leurs cadavres et après vaguaient librement à leur occupation en insultant l'État de tous les noms et en traitant nos militaires de cafres de tous les noms. Mais aujourd'hui, cela n'est plus possible. C'était une hémorragie qui est là, qu'il fallait d'abord arrêter. Et c'est le lieu quand même de saluer le professionnalisme des forces de défense et de sécurité qui non seulement ont empêché cet engin explosif bourré d'engins explosifs d'accéder au camp, de faire du mal, mais en plus de ça, ils ont non seulement immobilisé un autre, mais il y a un autre aussi qui avait pris la fuite. Et dans sa fuite, les drones que nous avons, ce sont des drones où on calcule le système d'information géographique, on cale le drone sur l'engin qui est mobile, automatiquement c'est l'engin qui fait déplacer le drone.
Mais est-ce que le fait que, c'est-à-dire cet engin-là qui est, vous dites que c'est bourré d'explosifs, ce véhicule kamikaze qu'on peut voir sur les images, arrive à rentrer peut-être à la devanture du camp, est-ce que quelque part il n'y a pas eu un problème de négligence quelque part avant même d'arriver là? Je suppose, on suppose que il y a eu un trajet, ce véhicule a eu un trajet avant de venir à ce lieu précis.
Oui, je vous informe que le véhicule n'a pas atteint le camp. Le véhicule, quand même, c'est tout à fait normal qu'un véhicule avance pour quand même arriver au checkpoint. Mais vous avez vu que le véhicule, en aucun moment, n'a pu avoir accès au camp.
Okay.
Maintenant, c'est sûr qu'il y a eu des complicités internes. Les renseignements même ont démontré qu'il y a eu des complices à l'interne, parce que ces terroristes quand même ne sont pas tombés du ciel. Ils ont dû passer un temps pour planifier leur attaque. Ils ont dormi dans des maisons à Sévaré là-bas. Ils ont dormi dans des maisons quand même des individus. Et ils ont pris quand même un véhicule, une citerne quand même de quelqu'un, d'un riverain. Donc il y a eu quelque part une complicité interne de part et d'autre. Et le renseignement, je ne vais pas aller en profondeur, mais de ce que je sais, il y a eu non seulement des complices du côté politique et même du côté religieux pour éventuellement les aider. Maintenant, est-ce que c'est fait de façon délibérée? Je ne saurais le dire, mais c'est peut-être les enquêtes qui vont déterminer le rôle des uns et des autres vraiment dans cette attaque. Okay. Mais ce que je voulais surtout dire pour compléter cet aspect-là, c'est que vous avez vu aussi dans une seconde image qu'il y avait un véhicule qui était en train de prendre la fuite. Le drone a tout simplement attendu que le véhicule arrive au niveau sous un arbre où peut-être il y avait d'autres terroristes ou d'autres engins explosifs qui étaient là-bas, et le drone a frappé. Et quand le drone a frappé, l'explosion était tellement énorme que dans la vidéo on voit même que ça donne, on sent que la terre même il y avait un mouvement même de terre.
Mais est-ce que cette image a pu être authentifiée, parce que on disait qu'il y avait des images qui n'étaient pas des vraies images,
L'image
dont circulé après,
l'image dont je parle,
on voyait des drones qui pilonnaient carrément, c'est-à-dire des véhicules. Et puis est-ce que cette image véritablement authentifié.
L'image dont je parle est une image authentique. C'est une image qui a été diffusée sur la chaîne nationale. Okay. Et c'est à travers nos drones que nous, nous avons acquis ici, avec les Turcs. Ça, c'est des images authentiques. Je vous le confirme ici sur ce plateau. Maintenant, vous savez, dans toute chose, il y a l'amalgame. Les gens font de la mauvaise communication et tout. C'est vrai que moi-même, j'ai vu une vidéo où je voyais des avions de combat rentrer quand même. On a dit que ça, c'est séparé et tout. Bon, ça, c'était peut-être des commentaires par exagération et tout. Mais les images drones, quand même, étaient des images réelles.
Donc maintenant, si on doit récapituler sur ce chapitre-là, et vous, et l'argument que vous êtes en train de prôner, c'est de dire tout simplement que l'armée reste une force, une vraie force, comme on le dit aujourd'hui.
Ce que je vais dire.
Elle monte en puissance. Ou elle est en puissance.
Alors, quand on dit elle monte en puissance, ça veut dire que l'armée, ce n'est pas encore acté. Oui. Moi, je pense que nous avons une armée professionnelle aussi. La montée en puissance de l'armée aujourd'hui n'est pas à mettre en doute. Nous avons une armée extrêmement puissante, sophistiquée et professionnelle. Ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir déjouer des attaques similaires. Les États-Unis, aux années, vers les années 2000, vous avez vu que les États-Unis ont été frappés de plein fouet au cœur même de New York. Et les États-Unis, quand on fait une comparaison, quand on fait le parallèle, avec quand même des technologies beaucoup plus avancées. Aujourd'hui, quand on voit, on fait le parallèle avec l'attaque complexe que nous avons subie à Sévaré, nous voyons tout simplement que nous avons une armée professionnelle. Et surtout qu'au même moment, il y a une partie, un contingent de l'armée qui a été attaqué encore vers Mourja. Et nos avions, nos aéronefs encore sont rentrés en combat là-bas et ont détruit l'ennemi. Et c'est ce que nous on cherchait. Et c'est ce qu'on n'avait pas. Et aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il viendra terroriser nos populations ou en tout cas prendre nos camps et s'asseoir tout bonnement en prenant du thé. L'exemple de Mondoro et de Boulkessi nous ont servi de leçon. On voyait des militaires à terre, on voyait des gens tomber, leurs cadavres, et des terroristes gisaient et en train de les traiter de tous les noms. Et cela est fini, et cela est une fierté aujourd'hui pour notre armée. Car cela ne tienne. Le fait d'équiper notre armée ne veut pas dire que c'est tout simplement la fin du terrorisme. Vous savez, quand je regarde un peu tout ce qui s'est passé à Sévaré, et quand je vois l'agressivité de la communication de certains partenaires entre guillemets et de certains journalistes entre guillemets et de certains médias occidentaux, je me dis tout simplement que le Mali a eu une chance énorme. Et je pourrais dire que c'est Dieu aujourd'hui qui est non seulement avec les autorités de la transition, mais Dieu quand même est avec le Mali aujourd'hui. Parce que ça aurait pu être grave si la cible avait été atteinte. Dieu seul sait comment on en serait aujourd'hui. Les gens sont jaloux des aéronefs que nous avons. Les gens sont jaloux des acquisitions que nous avions. Des partenaires sont restés avec nous pendant de très longues années. Et pendant ce temps-là, notre armée ne pouvait même pas survoler des parties de notre territoire. Aujourd'hui, on ne survole pas seulement, mais nous avons des aéronefs au point que des aéronefs peuvent tomber pendant que d'autres sont encore en combat. Je pense que ça, c'est quelque chose à reconnaître. Ça, c'est des efforts à reconnaître. Et pour cela, nous félicitons les autorités de la transition.
Tout le monde est unanime que des efforts sont faits dans ce sens, c'est-à-dire dans l'acquisition de militaires, de moyens aériens, matériels militaires. Tout le monde est unanime là-dessus. Mais aujourd'hui, ils sont aussi nombreux qui pensent que il y a aussi beaucoup de publicité, ou même trop de publicité autour de l'armée, des équipements de l'armée. Est-ce que l'armée, c'est la grande miette? C'est-à-dire souvent, on voit des gens, c'est-à-dire souvent à travers des plateaux, et qui font l'éloge ou même des armements acquis. Est-ce que quelque part, on n'informe pas, c'est-à-dire l'ennemi, on n'informe pas le terroriste sur les acquisitions de l'armée?
Alors, je vais vous dire quelque chose.
Vous avez remarqué ça?
J'ai remarqué. En fait, des fois, c'est
les gens... La DIRPA, la Direction des Informations de l'Armée, a même un moment fait un communiqué pour demander aux gens d'arrêter de donner des informations comme ça.
Non, moi, je vous explique. C'est toujours bon pour une armée de montrer sa force. C'est-à-dire la force, ça ne se discute pas. Quand on est fort, on montre sa suprématie. Et c'est tout à fait logique. C'est pourquoi des grandes puissances aujourd'hui, quand ils ont des équipements nucléaires, font des démonstrations de force. C'est des forces de dissuasion pour montrer à l'ennemi que si jamais vous vous attendez à m'attaquer, je pourrais vous atteindre. Et ça peut décourager certains. Mais sauf qu'au Mali, nous sommes quand même, il faut le reconnaître, l'une des rares armées qui s'équipe, qui recrute, qui forme et qui lutte en même temps contre le terrorisme. Ça, c'est le premier aspect. Secondo, nous avons des gens qui sont passionnés des fois, qui quand même commentent vraiment de façon démesurées des fois, excusez-moi du terme, vraiment les acquisitions des aéronefs de l'armée. Mais rien ne pousse quand même les uns et les autres à les écouter aussi, parce que ce ne sont pas quand même des voix officielles ou des voix formelles qui sortent pour expliquer des choses. Okay. Et c'est tout à fait normal que des gens sortent pour expliquer même dans la démesure, des fois, des actes de l'armée. Bon, on peut quand même chercher à le contrôler.
Est-ce qu'on ne doit pas laisser l'armée à l'armée ? Chacun à sa place, par exemple. Parce que l'armée, je suppose que ce n'est pas un fan club. Vous l'avez dit en introduction, tout le monde a un élément dans l'armée. Donc, je suppose que l'armée est une armée nationale. Est-ce qu'il ne faut pas laisser l'armée à l'armée ?
Non, c'est lui qui commente par des mesures. Oui. On n'est pas obligé de l'écouter. C'est lui qui veut l'écouter. Quand même, moi, je pense qu'on est un pays sérieux. Il faut quand même choisir les interventions.
Parce que l'armée, ça même, c'est sérieux, l'armée.
Mais bien sûr, mais il faut quand même choisir les gens que vous écoutez. Okay. Quand on vous dit, par exemple, je donne un exemple, qu'en un clin d'œil, peut-être un avion peut aller aux États-Unis et revenir. Ça, c'est peut-être quelqu'un qui aime son armée, mais qui a commenté dans l'excès. C'est-à-dire, c'est une manière de parler. C'est pour montrer peut-être la rapidité de l'engin. Mais cela n'est pas quand même réel, on le sait. Il faut juste avoir un esprit de discernement pour prêcher le vrai du faux. Mais ce qu'il faut quand même comprendre, il faut que le peuple aide son armée. Il faut que le peuple quand même appuie son armée. Parce que vous avez vu, des gens quand même qui sont des généraux de je vais dire même un général d'un pays, du Niger, peut-être un général de salon, qui se permet quand même de porter un jugement sur la politique nationale de sécurité du Mali, sans pour autant dire que chaque jour que Dieu fait, le Niger subit des attaques complexes, chaque jour que Dieu fait, des villages sont décimés et raillés de la carte du Niger. Et pendant ce même moment-là, ces forces européennes, ces forces étrangères qui l'ont cité sont encore là-bas. Et pire, aujourd'hui, j'écoutais un média occidental qui disait que le Sahel est perdu aujourd'hui. Et que chaque jour que Dieu fait, il y a des attaques séquentielles au Niger. Mais malheureusement, leur problème, c'est les Russes. Et la bonne dame, elle a tellement parlé de Russes, qu'on a tout simplement compris qu'elle avait des dents contre la Russie. Elle va jusqu'à dire que le Mali est en train de donner ses richesses, l'or et autres, à Wagner et autres. Or, l'or quand même, les industries minières au Mali sont connues, sont reconnues, sont ciblées. Et on sait quelles sociétés sont là, les multinationales qui sont là. Mais on les connaît. Maintenant, des autorités françaises, excusez-moi du terme, je demande votre indulgence de faire les évoquer ici, ont quand même des actions dans ces multinationales-là. Nous, on le sait. On sait qu'ils ne sont pas là pour nos beaux yeux. Ils avaient instauré un comptoir d'or dans les régions du Nord, où à Gao, une partie de Gao ou à Kidal, facilement les gens quand même font de l'extraction de l'or. Et la MINUSMA qui est là, qui est une mission qui est venue quand même pour aider le Mali, devait quand même aider l'État à retourner dans les grandes agglomérations du pays. Si cette force aujourd'hui est incapable de faire cela, et on dit qu'elle est une force d'interposition, elle peut riposter par légitime défense ou elle peut appeler ça comme elle veut, mais quand même, il faut quand même reconnaître qu'elle doit se remettre en cause et dire que sa mission d'aujourd'hui n'est plus celle que les Maliens attendent réellement.
On va en parler.
Oui, on va en parler, il n'y a pas de problème. Donc, je finis vraiment cet aspect sécuritaire et ces volets de Sévaré en disant que c'est le lieu pour nous de remercier non seulement la population de Sévaré, les jeunes, les donzos, et de façon globale, tous les habitants vraiment de cette région qui ont non seulement manifesté leur solidarité à l'égard de l'armée, mais les gens ont aussi montré leur solidarité aussi vis-à-vis de leurs concitoyens. Okay. C'est ce qu'on demande. Ces attaques, au lieu de nous diviser, nous ont beaucoup plus rapprochés. Pour finir avec le Niger, il y a un otage français qui a été libéré au Niger. Et vous savez combien ils ont payé ? C'est des millions et des millions de dollars qu'ils ont payé pour les libérer. Et cet argent qu'ils ont donné quand même à ces terroristes-là ont servi pour préparer des attaques, pour venir nous attaquer ici. Et la bonne dame qui parlait aujourd'hui a fait une révélation en disant que le camp a été repris après par l'armée. Le camp n'a jamais été pris par les terroristes. Mais peut-être, je me dis, dans son subconscient, elle a dû faire une révélation. Peut-être que c'est ce qui était prévu par ceux qui ont planifié ces attaques-là. On sait que les terroristes qui sont là de façon locale, nous avons des locaux quand même qui sont des bras armés. Mais les cerveaux, quand même, sont des gens qui sont ailleurs, des grands chimistes, des grands biologistes qui participent à la confection vraiment de ces engins explosifs.
Okay. D'accord. Oui, parlons maintenant de la MINUSMA. Il y a notre confrère Serge Daniel qui a fait un tweet qui a été largement commenté sur les réseaux sociaux, où il disait que la MINUSMA est intervenue, sinon ça aurait pu être ça aurait pu tourner autrement.
Vous savez, je ne vais pas révéler des choses sur ce plateau, mais nous avons des informations et des numéros de téléphone et des messages cryptés des gens qui ont contacté Serge Daniel, qui est à des milliers de kilomètres d'ici, qui est couché tranquillement quelque part. On lui a filé du mauvais coton. Il a voulu prêcher parce qu'ils ont commis des erreurs là-bas que je ne vais peut-être pas évoquer sur ce plateau. Okay. L'AMINUSMA, dans son communiqué, a clairement expliqué que c'est les FAMA en toute indépendance qui ont géré cette affaire-là, cette attaque-là, qui ont repoussé cette attaque-là. Et en disant que l'AMINUSMA a réagi par légitime défense. Par légitime défense, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que l'AMINUSMA a tiré sur des terroristes? Si elle a tiré sur des terroristes, combien de terroristes l'AMINUSMA a neutralisé? L'armée a quand même donné le nombre de terroristes neutralisés par l'armée. C'est connu. Excepté ceux quand même qui ont été détruits avec les engins explosifs. Sinon, tous ceux qui sont morts quand même, non seulement les cadavres sont là, on les voit, on sait comment ils ont été tués. Et il y a tout ce qu'il faut aujourd'hui. On ne peut pas cacher cela. C'est impossible. Okay. Maintenant, quand la ministre dit qu'elle a réagi par légitime défense, elle a réagi et elle a neutralisé combien de terroristes? Il faudra peut-être qu'elle nous le dise. Maintenant, quand Cher Daniel parle et qu'il dit que je maintiens, j'affirme ce que j'ai dit, mais il est à des milliers de kilomètres, il ne peut pas être là-bas et comprendre quand même cela. Et surtout qu'il n'a même pas cité des sources sur lesquelles on peut quand même se dire que, ah, attention, il y a quand même une certaine fiabilité. On ne peut pas obliger un journaliste à citer une source, mais de pareil, car le Mali est un pays sérieux.
Mais il est très formel hein, sur son information.
Mais il est formel, il le dit. Il est déjà sorti de son.
Que le temps, c'est le père de la vérité. Oh, il y a des rappels à Rabelais. Et puis voilà. Il insiste et persiste. Que l'AMINUSMA est bien intervenu.
Lui-même, il a été contredit par l'AMINUSMA. Quand tu dis que la réponse de l'AMINUSMA a permis quand même d'atténuer tout ce qui s'est passé et autres, et l'AMINUSMA dit qu'elle a réagi par légitime défense. C'est que Serge Daniel oublie. C'est que c'est des gens qui sont cachés dans des bunkers. Quand on fait boum et puis ils rentrent dans des bunkers, ils partent se cacher. C'est des soldats et voilà, tout comme c'est des humains, tout comme nous autres.
Okay.
Maintenant, pourquoi l'AMINUSMA, avec tout ce qu'elle a comme renseignements et informations, n'a pas pu quand même avoir des détails et des renseignements sur la base de ces attaques-là, en disant qu'il y avait ces attaques complexes? Mais pourtant, l'armée était sur les traces de ces terroristes-là, mais il fallait quand même attendre et voir l'objectif opérationnel et aller chercher quand même le patron ou le cerveau, celui qui planifie ces attaques-là. Et Dieu merci, le fait que l'armée a été un peu plus patient, a suivi, a observé, a permis quand même de détruire une certaine base terroriste et surtout la logistique de ces terroristes-là. Maintenant que Serge Daniel soit sérieux, des fois quand je le vois, un journaliste qui des fois sort complètement de son professionnalisme, se met à parler des grèves de syndicats au niveau des affaires étrangères, on dirait qu'il a un problème avec les affaires étrangères, mais on ne comprend plus quel est réellement le rôle de Serge Daniel.
On ne va pas faire le procès voilà. du confrère Serge Daniel. Hein.
Il n'est pas important d'ailleurs,
on va suivre cette actualité de près. Mais d'accord. Déjà, le vendredi 28 avril, ce vendredi, des organisations ont demandé ouvertement le départ de l'AMINUSMA. Est-ce que c'est une bonne chose pour vous? Est-ce que vous allez déjà, une petite question, est-ce que vous allez, est-ce que vous serez au rendez-vous? Est-ce que vous serez à l'appel?
Alors moi, je suis quelqu'un qui, je pense que j'ai beaucoup compris les organisations qui mobilisent, qui font des choses. Ça fait un bon moment après le M5, j'ai arrêté vraiment de participer à beaucoup de mouvements. Puisque,
pourquoi?
Parce que quand on était au M5...
Ce ne sont pas des organisations sérieuses le plus
non,
souvent.
Ou bien non, c'est... en fait, je vais vous expliquer quelque chose. Au M5, quand on est sorti au boulevard, les jours où on nous a dit les 10 commandements, prenez l'assemblée, prenez le pont, la primature, je vous jure au nom d'Allah que moi, j'ai cédé la barrière à des gens. Ceux-là qui nous ont demandé de sortir sont retournés avec leurs enfants à la maison. Et on était tous là-bas, on était contents. On disait que non, pour une première fois, les autorités sont là avec leurs familles, leurs enfants. Mais nous leur avons cédé le passage. Et quand on leur a demandé, ils nous ont dit non, nous avons des réunions, tout.
Les gens qui ont donné les consignes ne sont pas allés.
Ils sont pas restés avec nous. Ils ont décroché. Et le pire, c'est qu'il y a un qui a été quand même pris chez lui, je crois aux environs de 20h par les forces de l'ordre. Et il dit après qu'il a été mis dans les toilettes et autres là. Mais quand même, il ne devait pas être chez lui. Au moment où lui, il a été pris, nous, on était encore dehors et on était encore en train de lutter. Et ces jours-là, je me suis quand même promis vraiment de mesurer mes sorties, de faire attention vraiment à ces mouvements qui, des fois, cachent beaucoup plus de populisme que de sérieux.
Okay.
Maintenant, l'AMINUSMA. Très sérieusement, je pense que l'AMINUSMA doit revoir sa copie. L'AMINUSMA est venu ici pour une mission bien déterminée, une force d'interposition Force d'interposition, ça veut dire qu'il y a deux forces. Maintenant, il n'y a plus de force. Il n'y a une seule force, l'armée malienne. Les gens du Yémen, là, des terroristes et autres là, aujourd'hui sont en train d'être mangés par l'État islamique vers certaines parties de notre territoire, vers la zone de Menaka. Mm-hmm. Donc, c'est pour dire que ceux-ci ne sont plus une force, encore moins une menace pour l'État. Okay. Maintenant, il est bon qu'on s'assoie, qu'on se comprenne entre Maliens, qu'on se dise la vérité, ce qui est faisable dans la mesure du possible, qu'on le fasse, et ce qui n'est pas faisable, qu'on sorte de ça et qu'on avance et qu'on laisse à l'armée vraiment cette latitude de pouvoir lutter contre le terrorisme. Et la MINUSMA aujourd'hui, qui doit faciliter cela, qui doit faciliter les retours de l'administration dans les grandes agglomérations, a tout simplement démissionné de ça. Et elle est là pour aider les ONG. On va créer des puits ici, on va donner ici. Nous, on n'a pas besoin de ça. On veut la sécurité. De la sécurité, maintenant, nous pouvons tirer maintenant notre croissance. Et nous avons des secteurs, comme le secteur agricole, qui peuvent quand même être la locomotive, vraiment, pour notre croissance économique.
Okay.
Donc, il faut vraiment que l'administration essaie de revoir. Oui. Et je ne suis pas contre, pour finir, ces jeunes-là, aujourd'hui, qui sont en train de sortir pour demander le départ de la MINUSMA, parce que c'est tout à fait légitime. Et la MINUSMA, aujourd'hui, elle est vidée de sa substance. Et je pense que, sincèrement, si ça en tenait qu'à moi, la MINUSMA n'a pas lieu d'être ici au Mali aujourd'hui. Mais encore une fois, je laisse ce choix aux plus hautes autorités du pays qui ont quand même beaucoup plus d'informations.
Vous êtes un peu souvent dans les secrets, hein, des secrets de ces plus hautes autorités-là. Qu'est-ce que c'est dit en haut? Est-ce que nos autorités veulent le maintien ou pas de la MINUSMA ici au Mali?
Franchement,
la décision, le dernier mot revient dans tous les cas.
Absolument, mais je n'ai pas cette information-là, très sérieusement. Mais de ce que je sais, la MINUSMA est obligée de partir. Et les Maliens qui ont quand même eu des emplois à travers la MINUSMA doivent comprendre que même nous, aujourd'hui, qui sommes au CNT, le CNT va finir un jour. Et de la manière dont le CNT va partir un jour pour laisser la place à une assemblée nationale élue, c'est de cette même manière que la MINUSMA va partir un jour. Que les gens s'apprêtent déjà à pouvoir quitter la MINUSMA parce que les emplois que la MINUSMA crée, c'est vrai que ça te permet de nourrir ta famille, mais c'est des emplois précaires et la précarité nourrit la crise. Et les jours où ces gens-là vont quitter tout de suite brusquement, sans pour autant qu'on ait un point de chute pour ceux qui travaillent là-bas, peut-être que ça peut les basculer du mauvais côté. Donc le gouvernement doit penser à tout ça, revoir sa copie et éventuellement aider et parler et sensibiliser nos compatriotes pour qu'ils puissent comprendre que la MINUSMA doit partir de la manière dont elle est venue. Elle doit repartir de cette même manière pour laisser place à l'État qui doit avoir la libre administration du territoire.
Ok. Parlons maintenant des élections, le chronogramme électoral. On ne parle plus, on ne parle plus de date pour le référendum constitutionnel. Est-ce que vous avez déjà une date dans les coulisses? Est-ce qu'une date circule déjà pour la tenue du référendum constitutionnel? Et puis après, on va parler du reste du chronogramme électoral. Je vois que vous avez déjà votre carte biométrique. Vous pouvez peut-être présenter à nos téléspectateurs.
Alors, je vais montrer
quelques infos. Ah, oui, voilà. Vous n'êtes pas obligé de lire toutes les infos, mais voilà, vous pouvez la présenter. Je vais voir si la régie pouvait donner un peu.
Non, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, c'est quand même une carte qui est... Donc, je montre à tout le monde. Hein, c'est... Oui. Voilà, c'est ma carte. Et dans ça, vous avez le numéro NINA, le nom, le prénom, le sexe, le lieu de naissance, la date de naissance, la profession, et même le numéro de passeport. Parce que les passeports, quand même, ont une validité de 5 ans.
D'accord.
Peut-être le passeport peut expirer. Mais là, au moment où on confectionnait cette carte, le passeport que j'avais, le numéro du passeport figure ici. Et le deadline de la carte aussi, c'est vraiment 5 ans. Donc, c'est pour dire que c'est
cette carte, c'est 5 ans.
5 ans. C'est une carte sécurisée. Et moi, mon adresse aussi est bien entendu mentionné et indiqué
derrière.
Il y a un code barre, peut-être il y a d'autres informations qui peuvent permettre à l'État, au gouvernement, bien entendu, d'identifier la personne rapidement.
Ce sont des cartes sécurisées.
Ce sont vraiment des cartes sécurisées. Mais malheureusement, quand je suis allé récupérer ma carte hier à la mairie de Toroborobou, de la commune 5, j'ai vu qu'il n'y a pas assez d'engouement pour le retrait des cartes. Les Maliens sont quand même des gens de nature à attendre la dernière minute pour foncer et après pour venir dire que l'État n'a pas mis les moyens de retrait de cartes et tout. Oui. Franchement...
Est-ce que les cartes sont disponibles? Est-ce que vous pouvez dire que les cartes sont disponibles?
Vraiment, il y a bon nombre de cartes qui sont disponibles. Il suffit seulement d'envoyer le numéro de la carte NINA au 36-223 pour connaître le lieu de retrait et aller retirer sa carte. Moi, je suis allé, je n'ai pas fait plus de 5 minutes. Je ne suis pas allé en tant que membre du CNT, je me suis masqué, j'ai porté un masque, je suis allé tout doucement, j'ai pris ma carte et personne ne savait que c'était moi. Et je n'ai pas fait de temps. On a regardé sur le papier, j'ai signé, je suis allé, la dame a cherché ma carte, elle a vu, elle m'a remis. Je suis venu, j'ai enregistré et j'ai signé de façon électronique et je me suis retiré. Moins de 5 minutes. Donc j'invite vraiment les compatriotes à aller chercher et les partis politiques, bien entendu, qui nous parlent très souvent d'élections et tout, c'est légitime. C'est le lieu maintenant pour eux quand même d'inciter leurs électeurs à aller quand même retirer leur carte. Sinon, nous sommes déjà là-dessus. Nous sommes quand même aussi en train de demander à ceux qui sont avec les autorités de la transition quand même d'aller retirer les cartes parce que la transition n'a pas de base politique. C'est le peuple malien qui est aujourd'hui la base et le soutien de la transition politique. Aucun parti politique quand même ne peut se prévaloir vraiment de ce droit.
D'accord, donc tu vous invitez tout le monde, toute la population à aller retirer sa carte.
Bien sûr.
D'accord, et c'est gratuit, le retrait.
Non, le retrait est gratuit.
C'est pas
le
payant.
Le retrait est gratuit, c'est pas payant.
Ok.
Faut aller dès maintenant avant qu'après qu'il y ait une longue file.
Vous donnez l'info que c'est quand même gratuit. Il faut pas après qu'on dise qu'on prend 500 francs, 1000 francs pour le retrait. C'est gratuit.
Mais bien sûr, c'est parce que quand il y a des situations indésirables, c'est ce qui amène de la corruption. Les gens peuvent aller maintenant tout bonnement retirer leur carte. Mais s'il faut attendre au moment où les élections sont proches ou au moment où tu as besoin de ça, que tout le monde aille ensemble maintenant pour récupérer, c'est là où vraiment certains vont venir en disant je vais faire le rang, je vais organiser. Et c'est là où on voit des glissements, des corrections.
Donc maintenant, et par rapport au référendum, est-ce qu'il y a une date? Pour le moment, non. On a parlé de report sinégué. Donc jusque-là, est-ce qu'on a renoncé au référendum? Non.
Non, pas à ma connaissance. Je pense
qu'on est en train de sonder un peu l'opinion pour voir est-ce qu'elle est favorable ou pas à ce référendum constitutionnel. Et puis après, on peut même l'abandonner, peut-être en douceur. Hein?
Non, l'opinion est favorable à ce référendum. Okay. Des gens ont essayé vraiment de nous amener dans une histoire de laïcité et autres, mais finalement, nous avons démontré de façon scientifique et de façon très mesurée que cette histoire de laïcité ne tient pas. Il faut aller vraiment vers cette nouvelle constitution. Et en même temps, bien entendu, changer même vraiment de façon générale la classe politique ou cette même classe politique qui a amené l'ancienne constitution. Je pense que certains se disent que si on enlève cette constitution, ils iront avec cette constitution et tous les moyens sont bons maintenant de nous garder vraiment dans ce chapitre-là. Et nous, on est prêts à en sortir.
D'accord.
Seulement, il faut peut-être que le gouvernement nous communique un peu et nous dise un peu quand est-ce qu'on peut aller vers ça et l'organisation matérielle.
C'est-à-dire, le grand débat autour de la campagne même, ou la pré-campagne, et la campagne ensuite pour le oui ou le non.
J'ai vu, je crois, un décret du Premier ministre qui a mis quand même une petite commission en place pour tout. Bon, je pense que c'est pas, selon moi, c'est pas une bonne chose. C'est un projet quand même qui appartient strictement au président de la transition. Et c'est lui le patron de tous les Maliens. Et maintenant, c'est à lui quand même de mettre une commission.
Okay.
Maintenant, quitte à lui maintenant de désigner qui ou qui vraiment pour chapeauter cela. Mais quand on veut endosser ça à la primature, c'est là où on peut avoir une certaine opposition des uns et des autres.
On a même vu une leçon modèle, peut-être du ministère de l'Éducation, où on a demandé aux gens une leçon modèle sur cette nouvelle constitution, par exemple. Même là aussi, ce n'est pas une bonne chose.
Bon, je ne sais pas, je ne peux pas...
On parle de campagne de vulgarisation de projet.
Alors, je ne sais pas. Je pense que c'était peut-être des cours d'information, peut-être des sensibilisations, parce que c'est quand même notre loi fondamentale.
Okay.
Les Maliens ont le devoir et le droit de savoir ce qui se passe réellement dedans.
Oui.
Donc, pour moi, ce n'est pas aussi mauvais
D'accord.
que ça.
Voilà. Et maintenant, la présidentielle, qu'est-ce que c'est dit? Est-ce qu'on va aux élections, oui ou non, les législatives, ou bien la sécurité d'abord, comme le dit souvent certains acteurs de la transition?
Bon, je pense que la sécurité, nous sommes là-dessus, on est vraiment en train de le faire. Et c'est visible, tout le monde le voit. Mais je pense que je reste derrière en ce que le gouvernement a dit, qu'il faut aller aux élections. Il y a un chronogramme qui a été établi.
Oui, mais est-ce que vous voyez des signes qui vous montrent clairement qu'on est en train d'aller vers des élections, par exemple?
Si, bien sûr. Moi, déjà, la preuve, c'est que j'ai déjà eu ma carte.
Okay.
Et cette carte, quand même, est primordiale pour aller vraiment aux élections. Si moi, j'ai pu avoir ma carte, j'ai eu ma carte. Peut-être d'autres, des millions de Maliens aussi doivent peut-être avoir leur carte. Et on doit aller progressivement vers l'impression rapide de ces cartes et le retrait de ces cartes-là aussi. Je pense que nous sommes là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres facteurs aussi qui nous fatiguent aussi.
Okay.
Et les gens doivent comprendre
ceux qui n'ont pas cette carte, est-ce qu'ils peuvent voter discuté avec leur carte NINA, par exemple?
Non, pour le moment, sauf si on change un peu le contenu vraiment des lois existantes. Sinon, pour le moment, non. C'est vraiment cette carte qui peut servir de...
De carte d'identité.
Voilà, de carte d'identité aussi. Okay, okay. Donc, je pense que les gens doivent aller rapidement retirer ces cartes-là. Et c'est vraiment une bonne carte qui peut aussi servir de document de voyage. Okay. Des fois, tu peux être dans l'urgence, tu veux aller vraiment dans un pays de la CEDEAO. Okay. Avec cette carte, facilement, tu peux avoir une certaine mobilité, okay, une certaine facilité à te déplacer. Okay. Donc, elle n'est pas que pour l'organisation ou pour aller voter seulement. Oui. Les gens doivent comprendre cela. Okay. Maintenant, je pense que les autorités, on a quand même établi un chronogramme, un pré-chronogramme. Oui. C'est vrai qu'il y a eu un petit chevauchement, mais le ministère de l'administration territoriale est encore en train de discuter avec les partis politiques pour voir éventuellement comment on peut gérer tout ça. Okay. S'il y a un décalage, est-ce qu'il faut ce décalage? Et j'entends beaucoup de partis politiques aussi demander à ce qu'on renonce aux autres élections et aller directement au présidentiel. Oui. Moi, je pense que tout cela, il faut que les gens parlent, il faut que les gens se parlent, il faut dialoguer.
Parlons du dialogue politique, il faut que les gens parlent. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des tractations pour donner un nouveau souffle, par exemple, à l'action gouvernementale, hein, où vous êtes souvent mieux informés que nous? Est-ce qu'il y a des informations dans ce sens-là données?
Voilà. Pas à ma connaissance. Franchement, j'ai pas pris
une nouvelle dynamique à l'action gouvernementale.
J'ai pas pris écho de cette information.
Oui, le dialogue politique.
Je ne suis pas au courant de ça, mais je pense que.
Parce qu'ils sont nombreux qui disent que le gouvernement ne bouge pas. Est-ce que vous avez aussi cette information, Dr Albert?
Oui, j'entends. Moi, je pense que.
Ils sont nombreux, ces Maliens, qui disent qu'ils ne sentent pas le gouvernement.
Vous savez, le travail gouvernemental épuise. Non seulement ça épuise, mais aussi ça fatigue. On peut peut-être penser que certains sont fatigués. Je ne sais pas, je ne les juge pas.
Quand on est dans une équipe et qu'après on sent une fatigue, quand on est dans un match de football, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que l'entraîneur fait?
Non, l'entraîneur procède au remplacement. Ouais. Il y a un patron, c'est à lui de décider de tout ça. Il sait ce qui se passe dans le pays. Okay. Il a des services de renseignement à sa disposition. Et je suis sûr et certain que s'il juge utile de donner un nouveau souffle au gouvernement, il le fera sans hésiter. Je sais que c'est quelqu'un qui n'hésite jamais. Okay. Pour le bien-être du peuple malien, le président Assimi, il ne réfléchit pas deux fois. Okay. Maintenant, ce que je vais surtout dire, c'est que moi, j'ai un rôle de veille et j'ai aussi un rôle d'orienter l'action gouvernementale. Okay. Ce rôle, l'ancienne assemblée n'avait pas ça dans son règlement intérieur. Et moi, j'ai ce rôle-là. Mmh. Et c'est pourquoi, des fois, les gens veulent tout de suite que quand il y a des choses, qu'on interpelle, qu'on fasse ça. Non, il y a cette complémentarité aussi qu'il ne faut pas oublier parce que c'est une transition. Okay. Des fois, je ne suis pas content de l'agissement de certains ministres. Ouais. Mais en commission, au niveau de CNT, on les appelle, mais on descend sur eux. On leur explique clairement ce qui se passe et on leur demande de changer parce qu'on ne veut pas que l'échec de la transition vienne à partir d'un individu ou vienne à partir peut-être de la mauvaise foi ou de la mauvaise volonté d'un individu ou d'un cadre vraiment de la République. Okay. Et nous, des fois, on les invite même, on leur demande d'aller sur le terrain et d'expliquer des choses à nos populations. On demande au ministre, si vous pensez que vous êtes trop grand pour peut-être parler aux Maliens, demandez à vos conseillers d'aller parler aux Maliens. Mm-hmm. Parce que nous, on est quand même les représentants légitimes du peuple, on est parlementaires, nous, on est habitués à parler, et on ne fait que parler à nos populations, à les sensibiliser. Mais vous qui avez quand même la charge vraiment d'administrer ce pays, il est bon aussi des fois que vous partez, que vous parlez vraiment à ces populations-là. Parce que nous, on ne peut pas tout le temps aller voir un ministre en lui demandant des informations de gauche à droite, parce que ça peut porter... et confusion, ou peut-être on peut dire qu'on fait du trafic d'influence ou autre. Moi, personnellement, je ne le ferai pas. Mm-hmm. Mais si j'ai des aspects économiques à comprendre, je sais quand même à qui je dois me rapprocher. Mm-hmm. S'il y a de ces informations très, très sensibles aussi, comme des aspects sécuritaires dont nous sommes en train de parler, je rapproche qui des droits pour avoir la bonne information et ensuite venir véhiculer la bonne information pour couper court vraiment aux rumeurs et aux spéculations et pour bien entendu, enterrer les spéculateurs qui sont là et qui ne cessent vraiment de nous désinformer. Parce que l'Occident aujourd'hui a non seulement ses médias, a ses hommes politiques et bien entendu a sa société civile qui est en train de construire une mauvaise image de notre Mali, qui est en train de vendre une mauvaise image de notre Mali. Okay. Et notre rôle quelque part, pas en tant que législateur, mais en tant que citoyen normal, fils de ce pays, qui a le sang sanguin qui coule dans ses veines, est obligé de venir sur des plateaux pour déconstruire, bien entendu, cette mauvaise image qu'on est en train de donner de notre pays. Et pour rien au monde, je ne vais quand même laisser des gens donner une mauvaise impression, vendre une mauvaise image de notre pays. Parce que quand on parle trop, des gens qui ne connaissent pas le Mali, on va les décourager à venir au Mali. C'est vrai qu'il y a une crise sécuritaire qui est là. Mais si quand même on vend une bonne image de notre pays aux gens, d'autres viendront investir. Et ces investissements que les gens viendront faire ici peuvent quand même créer de l'emploi et de la richesse accroître notre croissance économique et tirer certains vraiment du joug du terrorisme.
D'accord. Avant de parler peut-être le dernier volet, on va parler de la justice et puis de partenariat entre le Mali et la Russie. Mais déjà, nous allons tenter de donner la parole aux téléspectateurs qui sont nombreux à nous suivre en direct dans cette émission de Djoliba Focus. La transition à l'épreuve du terrorisme. Notre invité est Dr Amadou Albert Maïga. Le numéro de téléphone va s'afficher tout de suite sur l'écran pour rentrer en direct dans cette émission, poser une question, faire une contribution. Notre invité est Dr Amadou Albert Maïga, mais vous devez vous éloigner de votre poste pour une meilleure liaison téléphonique ici dans le studio Omar Diallo de Djoliba TV News. Donc nous, en attendant, nous allons continuer avec notre invité pour poser une question sur la justice aujourd'hui des magistrats qui sont dans des rapports un peu compliqués, qui se tirent dessus et puis... Est-ce que ça ne fragilise pas un peu la justice, l'appareil judiciaire et puis aussi cette sortie du shérif Ousmane Madani Haïdara, le guide des Ansars, sur la justice. Il interpelle même le président Assimi Goïta de prendre ses responsabilités et pour une justice au service de tous les Maliens. Est-ce que vous avez déjà écouté cette sortie et qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui du jugement des Maliens sur la justice, leur justice?
Alors, je n'ai pas eu la chance d'écouter le président du Haut Conseil islamique, mais ce que je vais surtout dire, la plaie aujourd'hui du Mali, c'est vraiment la justice.
Confirmez ça.
Et je pense que le président lui-même a eu à le dire. Lors de la présentation des vœux des autorités traditionnelles, il a eu à dire que si on doit faire une lutte implacable contre l'injustice, certains viendront supplier en disant que non, il ne faut pas prendre mon parent, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Et je pense que nous sommes dans ça. En voulant essayer de bien faire aussi, quand tu touches à quelqu'un, on ne veut pas qu'on le touche. Parce que certains se croient beaucoup supérieurs au-dessus de la justice au Mali. Il y a des hommes forts, parce que l'État a démontré ici, dans ce pays, qu'il y a des gens plus fortes et des personnes plus fortes que la justice.
Donc il y a des intouchables pour vous.
C'est ce qui a toujours existé au Mali. Et c'est ce qu'on veut déconstruire maintenant. Et pour déconstruire cela n'est pas facile. Parce que tu vas toucher à un parent ou un ami vraiment de quelqu'un de super puissant. Il va se dire que mais lui, il est qui pour me faire ça? Donc automatiquement, il va se sentir petit. Or, c'est la force doit rester à la loi. On doit revenir forcément vers ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de dérapage. Mais moi, ce qui me tue surtout, c'est de voir quand même des magistrats, des procureurs ou des auxiliaires de justice s'afficher avec des hommes politiques au nom d'une organisation politique pour lutter contre quoi, je ne sais plus. Moi, à la place du président, mais je les enlève tout de suite et puis je les jette à la maison. Soit ils vont à la retraite.
Vous les enlevez.
Mais c'est rapide, mais c'est tout de suite. Je ne peux pas admettre, c'est-à-dire quelque chose comme ça. Je pense que le syndicalisme aujourd'hui a tué énormément de choses dans ce pays-là. Mais il fut un temps ici où on ne pouvait pas toucher aux magistrats. Les magistrats, c'était des dieux sur terre dans ce pays-là. Mais les magistrats font combien de mal ils le font? Ils font à des gens, de mal aux gens ici. Quand ils doivent rendre des décisions de justice au nom du peuple.
Est-ce qu'ils n'ont pas cette liberté syndicale aussi de défendre leur point de vue? C'est permis par les textes.
Je suis d'accord que c'est permis par les textes. Mais c'est pourquoi nous avons pris des textes.
Par exemple, si ces magistrats défendaient aujourd'hui la transition, vous n'aurez pas à redire. Vous allez même dire que leur action est une action patriotique, docteur Amadou.
Ces magistrats n'ont pas besoin de défendre la transition. Ces magistrats ont juste besoin de rendre des décisions de justice au nom du peuple. C'est tout ce qu'on leur demande. Nous, on va s'occuper de défendre la transition. Ils ne peuvent pas quand même être magistrat et venir boxer dans le même ring que nous. Vous pensez que moi, autorité de la transition, je me trouve face à un procureur qui est en train de dire ça ou un magistrat qui est en train de dire ça. Et un jour, je vais au tribunal. S'il doit rendre une décision de justice me concernant, vous pensez que je vais accepter? Je n'accepterai jamais. Parce que peut-être que je l'ai terrassé sur un plateau télé, il n'a pas aimé, il va garder rancune. Et le jour, on se verra, c'est inhumain. Mais il va vouloir me rendre la monnaie de ma pièce. Et aujourd'hui, tout ce que je suis en train de dire sur eux, demain, je vais me retrouver devant eux au tribunal. Ah, toi, c'est toi qui parles, c'est toi qui m'as dit ça dans un passé récent. Mais ce n'est plus les papiers, les documents qui vont parler. Mais c'est l'homme, c'est vraiment comment on appelle, c'est sa personne qui va parler à partir de là.
D'accord.
Et je pense que il doit comprendre cela et déposer les armes, ou en tout cas le président doit tout simplement les sanctionner. Et moi je pense qu'il y a un conseil
supérieur de la magistrature. Mais est-ce que ça ne va pas davantage fragiliser, parce que c'est une grande famille, la famille
vous judiciaire. Savez, la chance que
on parle de famille judiciaire, est-ce que ça ne va pas les fragiliser?
La chance que ces magistrats ont, c'est qu'il y a un statut général de la magistrature.
Okay.
Je jure que si j'étais dans le statut général, le président Assimi aurait déjà pris une décision pour les mettre dehors. Mais ce sont des Maliens comme nous, ce sont des pères peut-être à moi et des oncles, et l'autre peut être un oncle et des grands frères et ainsi de suite. Moi je les appelle à la raison. S'ils ont été vexés ou blessés, quand même c'est eux qui sont censés garantir la loi. Mais ils ne sont pas censés outrepasser cela et aller s'écrire des lettres de gauche à droite, s'insulter, se dire des choses et dire que tu es une lettre non datée, non tant, tant, tant. Mais ça met encore le pays en retard et ça fragilise le pays. C'est qu'ils demandent aujourd'hui le retour à l'ordre constitutionnel, qu'ils soient encore avec ces magistrats. Est-ce que dans ce jeu-là, on peut avoir même le temps de se concentrer sur l'organisation des élections ou se concentrer sur vraiment des actions pour rendre une justice saine et potable aux gens? Ils sont ici, ils disent que non. Vraiment, pour une fois, je demande votre excuse et l'indulgence de la famille d'un homme politique. Je n'ai jamais parlé de lui, de son vivant. Mais ils disent que quelqu'un est décédé en prison, il y a eu ça. Mais ces prisons-là, ce sont des prisons qui datent quand même de très longtemps. Quand le mouvement démocratique est venu, et ils sont tous issus du mouvement démocratique, combien de prisons ils ont construit? Mais pourtant, les prisonniers ont des droits. Mais ils ont entassé des gens là-bas dans les prisons comme des mouches. Est-ce qu'il y a une transition du jour au lendemain peut venir régler tout ça? Mais il faut que les gens se posent des questions. Ils ont eu à gouverner ce pays pendant...
Cet individu dont vous parlez, cet homme dont vous parlez, n'est pas mort en prison.
Si, il est mort en prison, il est mort en détention.
Oui, mais ce n'est pas dans la prison qu'il est...
Oui, mais bien sûr, il était en détention, il était en prison. Peut-être il a été évacué à l'hôpital de là-bas, il a perdu la vie. De son vivant, je n'ai jamais parlé de lui. Peut-être je vais éviter de parler de lui pour ne pas vexer sa famille ou sa famille politique ou sa famille biologique. Mais ce que je vais surtout dire... Ceux qui sont en train de s'ériger aujourd'hui en grand défenseur de ce monsieur-là, que beaucoup de gens comprennent que c'est son cadavre aujourd'hui qui est en train de lutter contre eux, parce que ce sont ces gens-là qui l'ont calomnié, qui l'ont insulté ici, mais c'est dans un passé récent, les vidéos sont encore là, qui l'ont traité de tous les noms, de, excusez-moi du terme de pédophilie, de celui qui a fait rentrer la pédophilie au Mali, qui a fait ça, qui a fait ça.
Oui, on va pas... on va pas rentrer
dans... on va terminer sur cette parenthèse-là, franchement.
Donc c'est... Et on n'a pas de...
Je ferme cette parenthèse.
Oui, parlons maintenant de la Russie et puis du Mali, le partenariat. Est-ce que pour vous, c'est un partenariat gagnant-gagnant?
Vous savez, cette question m'amène à répondre au général nigérien encore, qui dit que le Mali s'est isolé, il n'y a plus de... Mais la Russie est chez nous. La Chine est là. L'Iran est là. La Turquie est là. Et la preuve, avec les Russes, nous avons acquis énormément d'engins. Nous avons acquis énormément d'équipements militaires, que ce soit des équipements mobiles terrestres ou des équipements aériens, mais nous avons quand même été largement outillés par la Russie et la Turquie. Mais c'est ce qu'on demande. On demande, on ne veut pas qu'on aille pêcher, qu'on vienne nous donner du poisson. On veut tout simplement aller pêcher nous-mêmes et venir nourrir nos populations. Voilà ce qu'on a demandé et c'est ce qui n'a pas été compris. Et quand un pays décide de prendre cette voie-là, et je suis sûr et certain que les gens ne vont pas nous laisser tranquilles. Ils ont beaucoup plus d'argent que nous. Le franc CFA, c'est quoi? C'est de l'encre et puis du papier. L'autre là peut rester là-bas et puis imprimer des billets et puis faire rentrer ses billets, donner à des gens pour lutter contre la transition. On le sait, on le comprend. Mais pour cela, il faut un esprit patriotique. Il faut lever de conscience des uns et des autres. Que l'on se dise que si réellement nous faisons violence sur nous-mêmes et que nous acceptons de souffrir, ne serait-ce que peu, c'est sûr et certain que dans les années à venir, peut-être si nous ne bénéficions pas de ce que nous avons posé comme acte, nos enfants, nos progénitures pourront bien entendu bénéficier des actes que nous aurons à poser aujourd'hui. Et c'est pourquoi je pense qu'il est bon que ce partenariat avec la Russie puisse commencer. Et d'ailleurs, très bientôt, il y aura un forum économique Afrique-Russie. D'ailleurs, le Mali sera représenté par une très forte délégation là-bas pour aller éventuellement asseoir encore les relations économiques
et commerciales. C'est le forum dont vous parlez un moment, là, des parlementaires. Là.
Je suis allé avec le patron du CNT là-bas et puis avec délégation.
Vous n'avez pas envoyé des images. Vous avez l'habitude d'envoyer des images. Cette fois-ci, on vous a dit de ne pas envoyer.
Non, on en a envoyé beaucoup, mais peut-être vous n'avez pas reçu des images. Sinon, sur d'autres plateformes, nous avons largement communiqué sur ça. Mais ça, c'est notre forum économique et commercial pour asseoir encore davantage notre relation économique et commerciale avec la Russie. Il y a un nouvel ordre mondial qui s'installe. Il faut que les pays africains comprennent que on nous a fait comprendre et on a inculqué dans nos valeurs morales que l'homme noir ne peut pas marcher sans l'autre là. Mmh. Et aujourd'hui, il faut déconstruire cela et aller sur de nouvelles bases et dire que nous avons des valeurs, nous avons une culture, nous avons une identité et nous sommes fiers de ce que nous sommes. Nous avons de l'intelligence, nous avons de la matière. Je n'ai rien à envier aujourd'hui à un plateau de TV5 ou de France 24 tant que je me retrouve sur le plateau de Djoliba TV. Okay. Et encore devant un journaliste aussi brillant que vous êtes. Donc, qu'est-ce que je peux demander de plus encore, grand frère? Okay. Mais pour certains, s'ils ne sont pas devant France 24, TV5, c'est bien. Okay. Si nous avons l'occasion de nous exprimer sur ces plateaux-là, allez les concurrencer et dire peut-être nos vérités. Mais sauf que ce sont des plateaux de télé créés vraiment pour les Africains. Okay. Ce n'est pas, bien entendu, leur population d'accord, là-bas qui les écoute. Donc, nous avons nos plateaux ici.
Oui.
C'est bon que nous valorisons ce que nous avons ici. Okay. C'est bon qu'on se comprenne, qu'on se dise quand même des vérités. Ce plateau, pour finir, votre télé, quand même, elle est ouverte à tout le monde.
Okay.
Nous, des gens viennent critiquer la transition. D'autres sont pour la transition. Il se passe beaucoup de choses. À un moment donné, vous vous êtes senti peut-être vexé par des agissements, peut-être des organes de la transition, pas des organes de la transition, mais quand même de quelques autorités dont vous-même vous appartenez. Il y a eu ces débats-là. Mais cela ne vous a jamais empêché de m'inviter, moi ou certains, à venir quand même dire nos vérités et défendre la transition et défendre nos idéaux et de dire réellement ce que nous pensons juste pour notre pays.
C'est ça.
Donc vous êtes à féliciter.
C'est pour le pays, hein, chacun dans son domaine. Hein, voilà, nous jouerons aussi notre partition pour l'émergence de ce pays. Nous le faisons avec bonne foi, avec conscience professionnelle, mais surtout aussi avec responsabilité, sans parti pris, avec professionnalisme. Merci Amadou, si vous avez un dernier message.
J'ai vraiment un dernier mot. Dernier mot,
c'est
d'inviter vraiment la presse malienne, de façon générale, à quand même aller à la source de l'information, à aider le pays à véhiculer la bonne information.
Oui.
Nous sommes face à des gens qui ont beaucoup plus de moyens que nous, qui ont beaucoup plus d'instruments que nous, et qui savent beaucoup plus communiquer que nous. Mais si nous nous mettons ensemble, c'est sûr et certain que nous pouvons y arriver. Il peut y avoir des coups de gauche à droite, mais il faut savoir encaisser, il faut savoir se pardonner, et il faut aussi savoir avancer. Certains aussi sont fatigués. Maintenant, ceux qui sont fatigués aussi, qui ont quand même eu à gérer le pays pendant 30 ans, 40 ans, qui se sentent fatigués, mais qui aient quand même le courage de dire qu'aujourd'hui, vraiment, je suis fatigué, et laisser quand même la place à des jeunes pour que des jeunes puissent venir. Et ils peuvent rester en appui à ces jeunes, les conseiller, les coacher, pour éventuellement gérer le pays. C'est vraiment un cri de cœur, et c'est ce que je demande à l'ensemble du peuple malien. Pour ma part, au nom du président du CNT et de l'ensemble des membres du CNT, nous restons disponibles pour le peuple malien. Il n'y a pas deux peuples, il n'y a qu'un seul peuple. Malgré les divergences, nous sommes là et nous restons unis et déterminés pour, bien entendu, sauvegarder les intérêts de notre peuple. Il peut y avoir des moments d'égarement dans nos propos et la virulence peut-être des mots, mais rien de méchant, hein, franchement.
D'accord.
Merci à vous. Et j'espère que, on aura l'occasion d'approfondir
encore. Avec grand plaisir. Hein. À chaque fois que l'actualité l'impose, hein, on vous appelle. Et puis, merci aussi pour la disponibilité. Hein. Donc, le mérite vous revient aussi parce qu'à chaque fois, quand on vous appelle, vous répondez à l'appel. Et puis, je tiens aussi à dire que vous êtes très ponctuel, jamais en retard. Vous venez avant l'heure et on n'est jamais en retard avec vous. Donc, là aussi, c'est une qualité.
Merci.
Donc, il faut cultiver et puis il faut garder. Merci.
Inch'Allah.
Bon vent pour votre mission au niveau du Conseil national de transition. Merci Amadou. Docteur, j'insiste parce que j'aurais appris dans les coulisses que vous insistez. Le titre désormais. Ça n'a pas été facile.
Ça n'a pas été facile. C'est pas comme la politique ou autre. Ça, c'est la nuit blanche.
Merci, docteur Amadou Albert Meiga, membre du CNT. Notre thème était la transition à l'épreuve du terrorisme. Nous avions parlé aussi des élections, la carte biométrique, les attaques complexes et puis les attaques multiples. Et puis la vision de la transition, l'avenir de la transition avec docteur Amadou Albert Meiga. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Émission que j'ai eu l'immense plaisir de présenter. Merci de votre fidélité toujours. Renouvelez le programme de Djoliba TV News. Au revoir.